L'heure va bientôt sonner.
10h, 11h, vue à la radio, pour tout savoir du cinéma sur FN+.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
C'est la classe.
Monsieur Poitard, notre nouvelle célébrité.
Que diriez-vous de trois shillings? Et on oublie le nom.
Hasta la vista, baby.
Et quand on démarre un plan drogue, la tendance, c'est de repousser toute limite.
Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste?
Oui.
Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste.
Non, je suis ton père.
Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat.
On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Vue à la radio en collaboration avec l'association Profil Sine Qua Non. On revient avec ces deux approches, toujours pour un regard sur cette petite lucarne qui, comme dirais-je, pour commencer aujourd'hui, toujours en compagnie des pistoleros de l'équipe Profil, deux hommes, deux femmes, la parité est respectée. Bonjour Dominique Sarda.
Bonjour.
Bonjour Jean Demont.
Bonjour.
Bonjour Claude Bonnet.
Bonjour.
Et enfin Maggie Chalier.
Bonjour.
Bonjour à toutes.
Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Quiero estar con ellos a la hora de la luz.
Me siento culpable por haber sobrevivido.
Te absuelvo de todos tus pecados.
Es grande. ¿Cuánta gente vive en la villa?
No se sabe. No hay un censo. Además, esto ni figura en el mapa. Todo esto se tira abajo. Acá donde se va a construir el área de viviendas.
¿Tu domicilio actual? ¿En qué manzana vivís?
Manzana 27 bis, casa 25.
O sea que los dos se dieron el lujo de ser pobres.
Muy bien.
¡Vamos! Y esto no va a quedar en paz. Va a ser peor, cada día peor.
¡Vamos, vamos! ¡Para ahí!
Esto es una guerra entre ellos. Nosotros no nos podemos meter.
En una situación como esta, no podemos ser solamente sacerdotes.
Pero es que no somos políticos, Julián.
Nosotros creemos paz.
Donc, Habemus Elefante. Donc, c'était la grande nouvelle pour les catholiques de la planète, Habemus Papam. Donc, un pape argentin. Et ce pape argentin donc, donne tout de suite un peu le profil de ce qui se passe aujourd'hui, à la fois au niveau littéraire, mais aussi au niveau cinématographique, avec ce film Elefante Blanco, un film argentin. Qui vous a donné envie, des envies aux uns et aux autres, pour ceux qui l'ont vu, à la fois, ça correspond exactement à ce pape. C'est-à-dire la simplicité, et surtout, je pense à cet épisode sur lequel les médias reviennent énormément, qu'il est allé dans un bidonville. Ah, pour ceux qui connaissent Buenos Aires, le bidonville, les bidonvilles de Buenos Aires, c'est vraiment le vivier de la violence dans toute sa brutalité. Et ce film, Elefante Blanco, on va essayer de voir, donc le bidonville de la Vierge dans la banlieue de Buenos Aires, Julian et Nicolas, deux prêtres, et amis de longue date, œuvrent pour aider la population. Alors je vois que Maggie oscille de la tête. Quel sentiment, Elefante Blanco? Ça veut dire éléphant blanc.
Oui, c'est plutôt par rapport à ce que vous avez dit à propos de François, nouvellement élu. Il est certes allé prêcher dans les bidonvilles, mais dans le film Elefante Blanco, le visage qu'on nous montre de la hiérarchie catholique n'est pas aussi idyllique. Hein. On voit que le père Julian, lorsqu'il va discuter à l'évêché, n'est pas toujours accueilli avec beaucoup de charité. Bon, mais pour revenir au film alors lui-même, moi je le trouve justement extraordinairement évangélique. C'est ce qui m'a frappé dans ce film, c'est le fait que, quels que soient d'ailleurs les protagonistes, qu'ils soient prêtres, donc chrétiens, ou athées, comme Luciana, l'assistante sociale, et puis d'autres autour d'eux, ils sont sans cesse en situation de regard tourné vers les autres et de main tendue, mais d'une manière très, très vive, parce qu'ils se mouillent la chemise, vraiment. Hein. Ce n'est pas uniquement des mots, c'est vraiment des actes. Et c'est à ce titre-là que je trouve que ce film est, à mes yeux, tout à fait évangélique.
Quand je me disais, je parlais du pape François Ier, c'est l'anecdote qu'on raconte, c'est qu'il est allé justement habiter chez un prêtre qui était menacé dans un bidonville par les narcotrafiquants, menacé de mort, et qu'il est allé vivre avec lui. C'est vrai que c'est la hiérarchie en général de l'Église catholique a été plutôt en déphasage avec la population et notamment la population déshéritée. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, Elefante Blanco, on s'attendait à des éléphants blancs en Argentine. C'était un peu étonnant. J'aurais été. Et quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a parmi d'autres.
Il faut rappeler qu'Elefante Blanco renvoie au nom de l'hôpital. Qui avait été construit et qui, en fait, n'a pas trouvé sa destination d'hôpital et qui sert de refuge aux drogués et aux sans-abri qui se retrouvent là pour se...
Mais vous avez eu envie, j'ai l'impression que vous en parlez avec un peu de distance.
Non. Moi, je suis bien d'accord avec Maggie pour dire que c'est un film très évangélique et remarquablement bien fabriqué. À part les premières images, que on entre dans le film par cette opération sur la tête de quelqu'un qu'on ne voit pas très bien, on ne sait pas très bien pourquoi ça commence comme ça. Et puis ensuite, alors, il y a au contraire alors cette première violence de cet homme qui, dans la broussaille et dans le noir,
dans la jungle,
essaye d'éviter d'être tué, quoi. Et puis il y a le massacre. Enfin, il y a une succession d'entrées dans le film assez surprenante, mais qui donne un rythme très particulier. Et je trouve que ce film a un rythme absolument extraordinaire, une force, quoi.
Oui. C'est l'introduction des deux personnages qu'on voit d'ailleurs avant l'apparition du générique. On voit d'abord le Julian, donc qui est le prêtre âgé, on va dire. Le prêtre âgé.
Oui.
Donc qui subit, on ne sait pas s'il passe une radio ou s'il subit une thérapie. Oui. On pense qu'il est mal en point. Et d'un autre côté, par la suite, on voit le deuxième prêtre, le plus jeune, qui est poursuivi, qui se cache, qui est poursuivi donc, par des guérilleros, l'armée, on ne sait pas trop, et qui est recueilli après par le premier prêtre, Julien, qui va le chercher, qui le ramène dans son église, qui est au milieu du bidonville.
Oui.
Il me semble, au début, cette introduction là, dans la jungle m'a étonnée parce que dans la suite du film, on avait l'impression qu'il n'était plus question de cette mission. Mais en réalité, après, je me suis dit que c'était ça qui rendait compte du sentiment de culpabilité qu'avait Nicolas. Oui. Et c'est probablement ça aussi qui fait qu'il est beaucoup plus battant par rapport aux narcotrafiquants que ne l'est Julian, qui est beaucoup plus prudent. Me semble qu'il veut se racheter de ce qu'il ressent comme une lâcheté qu'il a commise. Il n'a rien fait, dit-il, pour sauver les villageois qui ont été massacrés.
Mais il en pleure.
Il s'en confesse.
Oui,
et donc je pense que ça explique une bonne partie de son comportement au sein même du collectif dans le bidonville.
Alors, ce qui m'étonne, me surprend, on a vu ça avec des hommes et des dieux, c'est des acteurs qui vont incarner des hommes de foi, et souvent, c'est des acteurs qui n'ont pas la foi. Mais là, il y a quelque chose de très, très, très pointu, parce qu'être prêtre argentin dans une banlieue de Buenos Aires, on ne peut pas jouer ce rôle-là n'importe comment. Et là, on a l'impression que les deux acteurs qui incarnent ces prêtres jouent, enfin, ont habité le rôle. C'est le sentiment que j'ai eu en les voyant, connaissant un petit peu ces banlieues-là. Il n'y a pas de déphasage entre le personnage incarné par ces deux acteurs et la réalité.
Oui.
Moi, ce que je trouve absolument admirable dans ce film, c'est précisément ce parcours que l'on voit donc sur ces deux hommes. Et leur évolution au cours du récit, et en même temps leur lien avec la population au milieu de laquelle ils essaient d'être prêtres, les pauvres avec tant de difficultés, ils font et la présence de ce peuple autour par des images absolument extraordinaires, moi je trouve, en particulier ces ruelles où vit cette population, aussi bien dans les couleurs que dans les mouvements, on est vraiment très 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 pris par. Moi, j'étais quand même envoûté par ce milieu que, bien entendu, je ne connais pas.
Mais je trouve que c'est la force de ce film. Ces deux prêtres, donc, et l'assistante sociale, sont en immersion totale dans ce bidonville. Ouais. Et on arrive, nous spectateurs, à être à côté d'eux.
Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai ressenti.
Exactement.
Dominique ?
Oui. Moi, j'ai vu une initiation du jeune prêtre par le prêtre plus âgé qui va mourir et qui lui passe le relais, qui lui donne la mission de continuer après lui. Et une initiation, une maturité, une perte d'innocence. Je crois que ce jeune prêtre qui arrive de Belgique est arrivé avec des a priori, plus ou moins naïf. Et justement, la première scène, c'est cette perte d'illusion totale et brutale, s'il en est. Et ensuite, pour lui, quelque part, l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce qu'il n'a que des bonnes intentions, mais il se plante, en quelque sorte. Et le vieux, lui, le vieux prêtre, qui n'est pas si vieux que ça, mais le plus âgé, donc, qui lui fait remarquer qu'il faut quand même que la vie, c'est pas tout noir, tout blanc, et il faut absolument être prudent et pas forcément entrer dans le vif du sujet, mais louvoyer et connaître le milieu. C'est aussi une initiation à la vie, à la violence. Et
on a l'impression aussi dans ce film, enfin c'est le sentiment qu'il donne, c'est du Ken Loach.
Non, moi je ne le sens pas comme ça,
du tout.
Moi je trouve que c'est beaucoup plus fort. Il y a une chose qui m'a intéressée, je ne sais pas si justement, je crois que ce n'est pas présent chez Ken Loach, c'est le rôle joué par les contacts physiques.
On est dans des cultures différentes là.
Oui, mais
le rapport au corps, le rapport à l'autre, c'est vrai que dans la tradition plutôt méditerranéenne, on est dans le toucher, alors que la tradition
Nicolas est belge. Nicolas est belge. Et ce qui m'a frappé, c'est deux scènes en particulier, lorsqu'il se confesse et que Julian et lui s'étreignent.
Voilà.
Et il m'a semblé que là, c'était vraiment à la fois pathétique, parce qu'on voit bien à quel point la solitude dans laquelle ils sont, la solitude relative, affective dans laquelle ils sont, peut être en partie compensée par justement cette manière de se toucher. De se toucher dans l'absolution, dans la confession. Et puis la deuxième scène, bien sûr, c'est celle où avec Luciana, il a une relation sexuelle et où on voit que pour lui, c'est une forme de libération et de détente, parce que ils n'en peuvent plus. Tous, ils sont dans cette situation, ils n'en peuvent plus. Et passant par le corps, il y a une forme de détente et de libération qui s'effectue.
Donc, voilà. Elefante Blanco, il est toujours à l'écran, ne pas le rater. Si on le donne une note sur 10, de 1 à 10, Maggie ?
9.
Ah oui, moi je donne 9, il y a tellement de choses à dire.
8 ?
Oui, oui. Ah oui, oui.
8 aussi, 9 ?
Oui, moi je dis 9 aussi, 9. Oui.
Dominique ?
8.
8, voilà. Donc ça va faire une 8,5 de moyenne sur 10. Donc un film à ne pas rater, Elefante Blanco de Pablo Trapero avec Ricardo Darín, Jérémy Régnier. C'est comme ça qu'on dit, hein.
Oui,
Jérémy.
Jérémy
Régnier.
Et faut pas oublier Martina Guzmán.
¿Es todo?